Alors bonjour à tous. Donc tout d'abord, merci beaucoup à Thomas pour sa présentation qui a été particulièrement intéressante. Donc j'ai mis le livre sur la table, donc je l'ai lu dans une grande partie et effectivement j'ai trouvé que c'était un livre remarquable et j'ai appris beaucoup de choses, donc je vous invite à le lire à votre tour. Alors, on a relativement peu de temps, donc ma collègue Sophiette et moi-même allons poser quelques questions que nous avions préparées à Thomas, et ensuite on résumera les questions qui ont été posées par vous toutes et tous. Alors, une première question que je voulais poser à Thomas, et qui est en lien avec plusieurs de celles qui ont été posées par vous, a trait à la question de la justice et la théorie sous-jacente de la justice. Donc dans tous tes travaux, Thomas, tu insistes beaucoup sur la question fondamentale des inégalités. On distingue souvent deux logiques quand on pense aux inégalités, la logique de l'égalité d'opportunité ou d'égalité des chances, dans laquelle on devrait compenser les gens pour tous les aspects dont ils ne sont pas responsables, les circonstances, leur origine familiale par exemple, mais pas pour leurs efforts qu'ils fournissent ou pas. Donc ça c'est une première approche, l'égalité des chances, et il y a une deuxième approche qui est celle de l'égalité des résultats, equality of outcome en anglais, et notamment Tony Atkinson dans son dernier livre prônait vivement de façon très vivante en faveur de l'égalité des résultats. Donc je me demandais, Thomas, est-ce qu'il faut donner priorité à l'une par rapport à l'autre? Dans ton ouvrage, notamment dans le dernier chapitre, tu proposes certains dispositifs qui ont plutôt trait à la première et d'autres plutôt à la seconde. Donc est-ce qu'il faut donner une priorité entre les deux, ou bien est-ce qu'on peut obtenir les deux simultanément?
Alors je pense que c'est pas possible de choisir entre les deux sans une réflexion sur la question de ce qu'on considère être les biens fondamentaux. C'est-à-dire que moi, l'approche de la justice que je développe dans le chapitre 17, et il y a toute une discussion sur qu'est-ce qu'une société juste et comment on peut essayer de progresser dans cette direction. Moi, je favorise une approche, enfin, j'essaye de définir la société juste comme la société qui permet de permettre à l'ensemble de la société d'accéder aux biens fondamentaux les plus étendus. Alors, quels sont ces biens fondamentaux? Alors, il y a l'éducation, la santé, et plus généralement la participation à toutes les formes de la vie politique, le droit de vote, mais aussi de la vie économique, c'est-à-dire la participation de la vie des entreprises, qui a été un très grand succès. C'est-à-dire les pays qui ont développé cette plus grande participation, par exemple au travers des représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises en Allemagne et en Suède, ont aussi eu plus de productivité, plus de croissance, parce que c'est plutôt une bonne chose de partager le pouvoir. Ça a permis aussi d'éviter, alors c'est pas un système parfait, il faut aller encore plus loin, mais ça a permis d'éviter les explosions par exemple, de très fortes rémunérations qu'on a vues dans les pays anglo-saxons. Je pense en partie parce que ce partage des pouvoirs par une plus grande participation a en soi aussi, enfin c'est à la fois un moyen et un but en soi, enfin de même que la démocratie elle-même, c'est-à-dire que la participation, l'égalité de participation à la vie politique mais aussi à la vie économique, c'est un objectif en soi. Ça passe évidemment par l'éducation, la santé, qui sont les biens fondamentaux par excellence. Et puis la délimitation exacte de où s'arrêtent les biens fondamentaux et pour quels biens fondamentaux on doit avoir une égalité absolue. Et sur l'école primaire, l'école secondaire, ça fait quand même assez longtemps, enfin dans la plupart des sociétés, qu'on considère qu'il doit y avoir une égalité absolue. Alors dans la réalité, en termes de financement, dans les écoles de banlieue qui ont plein de profs contractuels et plein de personnes peu expérimentées, l'égalité réelle, ça laisse à désirer. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas non plus inventé des dispositifs de vérification des discours permettant à chacun de s'approprier ce qui a été fait ou pas fait. Mais au niveau des discours théoriques, tout le monde défend l'idée qu'il doit y avoir une égalité absolue d'accès à certains biens fondamentaux. Jusqu'où doivent aller ces biens fondamentaux? Ça fait partie de la délibération, et c'est pour ça que la délibération est à la fois un objectif et un moyen pour atteindre la justice. Donc voilà, l'approche que je développe, qui n'est pas qui n'est pas radicalement nouvelle, hein, qui ressemble à beaucoup de thèmes sur l'accès, sur les capabilities d'Amartya Sen, mais je pense aussi des conceptions de la justice qui ont été à l'œuvre dans les révolutions politiques, dans la Révolution française, dans d'autres révolutions politiques. Et je trouve que l'opposition, simplement, égalité de résultat, égalité d'opportunité, je trouvais un peu réductrice par rapport à ces autres enjeux d'accès aux biens fondamentaux. Après, la conception de la justice que je défends n'implique pas l'égalité absolue sur tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choix différents pour un même niveau d'éducation, de santé, de droit de vote. Certaines personnes peuvent choisir des carrières professionnelles différentes, plus ou moins rémunératrices, apportant des rémunérations symboliques ou culturelles plus fortes et d'autres des rémunérations financières plus fortes. Et tout ça est parfaitement bien. À condition de ne pas utiliser ce type d'argument pour justifier, parfois au nom d'une logique incitative, n'importe quel niveau d'inégalité sans même faire attention à les examiner correctement. Donc je me méfie beaucoup, je conçois tout à fait l'idée qu'il puisse y avoir des inégalités justes, mais il faut le démontrer, il faut le regarder de près, d'où le besoin des données, de la transparence, et se méfier un peu des discours stéréotypés prêt à tout justifier, soi-disant pour l'intérêt des plus pauvres, parfois avec une grande hypocrisie.
Merci beaucoup. Donc je vais poser une deuxième question, et puis après je passerai la parole à ma collègue. J'avais une question qui est relativement simple, c'est sur la notion de rente en lien avec la propriété. Donc la rente, c'est une notion qui est très ancienne en économie et qui a connu un regain d'intérêt récemment avec tous les travaux autour des superstars. Je me demandais, et puis aussi la rente est exploitée par les entreprises qui sont en position dominante sur un marché. Donc moi je me demandais si le problème du capitalisme était la propriété en elle-même, ou bien est-ce que c'était pas plutôt le fait que certains agents particuliers bénéficient de rentes démesurées. Et donc quand tu fais une proposition comme la propriété temporaire, est-ce que finalement il faut voir ça comme une façon de lutter contre les rentes, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est encore plus fondamental comme changement?
Je pense que c'est encore plus fondamental. C'est-à-dire que le pouvoir de monopole peut faire partie des raisons pour lesquelles la propriété s'accumule au-delà de toute limite. Mais je pense que ça va au-delà de ça. D'abord, soyons clairs, la propriété privée en tant que telle est évidemment très utile. Et moi, je défends une société, enfin mon socialisme participatif, c'est un système où justement la propriété privée, au contraire, tout le monde y a accès. C'est-à-dire le but, c'est d'avoir que tout le monde puisse accéder à une propriété privée d'ampleur raisonnable, que tout le monde puisse avoir quelques centaines de milliers d'euros. Certains peuvent avoir quelques millions s'ils ont créé des entreprises qui marchent bien, parfois quelques dizaines de millions, mais ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il faut que qu'il y ait une circulation. Et les personnes qui ont des centaines de millions ou des milliards ou des dizaines de milliards d'euros, je ne crois pas que ce soit utile pour l'intérêt général que ça perdure. C'est-à-dire, l'idée générale, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu une bonne idée ou éventuellement a eu de la chance parfois à l'âge de 30 ans que cette personne va forcément être à même de pouvoir prendre seule toutes les décisions à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans dans une entreprise qui comporte des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés. Enfin, il y a une vision là un peu monarchique de l'économie qui me semble complètement décalée par rapport à la réalité de nos sociétés où on a des niveaux d'éducation qui n'ont jamais été aussi élevés, où on a besoin d'une circulation du pouvoir. Et voilà, une personne toute seule ne peut pas prendre des décisions aussi compliquées que dans des organisations, des entreprises de très grande taille. Et d'ailleurs, c'est cette circulation de la propriété du pouvoir qui a permis non seulement de réduire les inégalités, mais aussi d'avoir, je crois, plus de croissance au cours du XXe siècle à travers la circulation de l'éducation, qui est le premier des pouvoirs, mais aussi un certain équilibre entre le droit des actionnaires et le droit des salariés, leur représentation, comme je disais tout à l'heure, dans les conseils d'administration en Allemagne, en Suède, ce qui est maintenant quelque chose qui est discuté au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, et qui, je pense, va s'étendre à l'avenir. La propriété, elle est toujours sociale dans ses origines, c'est-à-dire que la propriété strictement privée, vous voyez, Bill Gates, il a sans doute beaucoup de mérite, mais enfin, c'est pas lui qui a inventé les ordinateurs tout seul. Il y a plein de chercheurs en informatique fondamentale sans qui rien n'aurait été possible. Et ils n'ont pas mis leur carnet de chèques en bas de leurs articles à chaque fois qu'ils ont fait une découverte. Et donc cette idée du modèle théorique des économistes où il y a la productivité marginale individuelle et hop, chacun vraiment est responsable de son truc, etc. Mais ça n'existe pas dans la vraie vie, dans l'économie réelle, parce qu'il y a toujours un stock de connaissances, notamment accumulées par l'humanité depuis ses débuts. Et donc après, vous avez des appropriations privées, parfois de connaissances publiques, qui pour le coup ne sont pas dans l'intérêt général et n'ont rien à voir avec une propriété strictement privée. Et si quelqu'un pouvait aujourd'hui s'approprier le théorème de Pythagore et récupérer 100 € sur le dos de chaque écolier ou collégien utilisant le théorème de Pythagore, bon, il n'y a pas de doute que la capitalisation boursière de cette société serait considérable. Et en même temps, on n'aurait pas créé un poil de capital nouveau parce qu'on a le théorème de Pythagore, on le connaît depuis 2500 ans. Donc c'est juste qu'on aurait donné une valeur privée à une connaissance. La propriété privée, parfois, c'est ça aussi. Donc, la propriété est toujours sociale dans ses origines parce que c'est la division sociale du travail et l'accumulation de connaissances collectives depuis des centaines d'années, des millénaires, qui permet tout ça. Donc, il faut ramener la propriété privée dans des proportions raisonnables. Comment on fait pour savoir quelles sont ces proportions raisonnables ? Eh bien, on a l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut comparer différentes périodes historiques. Est-ce que quand il y a plus de milliardaires aux États-Unis dans les années 2000-2010 que dans les années 70-80, est-ce qu'on a plus de croissance ? Est-ce qu'on a plus d'innovation ? La réponse est non. La croissance est divisée par deux. Donc, à un moment, c'est très bien, les discours théoriques sur plus il y a de zéro sur le compte des milliardaires et plus il y a d'innovation et plus il y a de croissance, c'est d'un point de vue théorique, c'est parfaitement recevable, mais sauf que ça colle pas du tout sur l'évolution de la croissance depuis 30-40 ans. Donc, il y a un moment où, si on pouvait juste regarder ces choses-là ensemble, tranquillement, ce serait bien.
Merci. Alors, moi, je suis Sophia, je suis maître de conférence en économie à l'ENS de Lyon, et je ne vais pas accaparer la parole trop longtemps, j'avais plusieurs questions, je vais en choisir juste une, et je pense qui fait suite à ce que tu viens de dire, Thomas. Moi, je me pose la question à la fois, après avoir lu le livre, réfléchi à ces questions, et puis surtout après avoir un peu analyser la manière dont ce travail peut être reçu. Donc, on l'a vu, c'est un travail qui est impressionnant, qui vise à comprendre dans l'histoire économique, sociale, politique, et par cette histoire, la justification de l'existence de sociétés inégalitaires, parfois très inégalitaires, et aussi qui apporte un certain nombre de propositions qu'on n'a pas trop eu le temps de détailler aujourd'hui, mais qui ont le mérite d'être sur la table et dont on peut débattre et que l'on peut s'accaparer collectivement. Et moi, je suis frappée par le constat que dans un certain nombre de médias, le livre a été très violemment critiqué, essentiellement avec des arguments idéologiques, pour ne pas dire dogmatiques. Donc on voit bien, par exemple, que la question de interroger le concept de propriété, voilà, c'est quelque chose qui effraie un certain nombre de personnes, en tout cas de journalistes ou de commentateurs. Alors, ma question est la suivante. Je me demande comment l'économiste ou le chercheur en sciences sociales, de manière plus générale, peut s'adresser aux citoyens et informer le débat public dans la mesure où l'argumentation du chercheur, elle est nécessairement complexe. On le voit, le bouquin est effectivement pas très difficile à lire, mais objectivement long. Et ce qui est ce que la société attend d'un travail de chercheur. Mais justement, puisque ce travail est très très fouillé et un petit peu long à lire, il est probable que la plupart des citoyens vont en prendre connaissance à travers les comptes rendus qui sont rédigés par des personnes qui ont une lecture biaisée, orientée. Et de manière plus générale encore, je me demande comment on fait pour transmettre un message complexe dans une société où on sait qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de travaux en sciences sociales qui le documentent et qui cherchent à comprendre les ressorts de ce phénomène. Dans une société où les citoyens ont une lecture biaisée, motivée, guidée par l'idéologie, justement. J'aurais aimé avoir ton avis sur cette question.
D'abord, ma première réponse, c'est que moi, je me plains absolument pas de la réception qu'a pu avoir ce livre ou qu'a pu avoir le précédent. Ce serait un peu gonflé de ma part. C'est-à-dire que globalement, il y a une couverture qui est exceptionnelle, très, très, très large diffusion du livre. Donc là, je vais pas, si je me plaignais de comment c'est reçu, ce serait quand même un peu gonflé de ma part. Alors après, que les gens ne soient pas d'accord, je dirais que ça fait partie du processus. Bon, après, c'est vrai que des fois, il y a certaines réactions qui sont épidermiques. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes qui vont dire « bon, je n'ai pas lu le livre, mais néanmoins, je considère que c'est de la merde. » Bon, c'est très bien. Moi, je ne peux pas... Qu'est-ce que vous voulez que je peux rien faire, je peux pas forcer les gens à lire. Je peux juste dire que je pense que c'est important de lire. Voilà, c'est-à-dire que et on peut. Alors c'est vrai que ça c'est quand même un peu long. Donc j'essaye d'écrire aussi des choses plus courtes. Hein. Je fais aussi depuis 20 ans, je fais chaque mois une tribune courte dans les journaux. Donc je fais des formats à la fois très courts, une page, et des formats 1000 pages. Je fais aussi des formats intermédiaires. J'ai fait des livres de 100 pages. J'en ferai d'autres. Peut-être même pour résumer ça. Enfin, il faudrait voir un peu. Bon, voilà. Donc je pense qu'il y a ces différents formats ont chacun leur légitimité, ont chacun leur utilité. Bon, sur les réactions épidermiques auxquelles tu fais référence, tu n'as pas cité, mais c'est vrai que bon, la presse financière, c'est compliqué parce que les Échos, les journaux Les Échos, pour ne citer qu'eux, ils sont... À la fois, c'est bizarre parce qu'ils me font une double page, une triple page, etc. Bon, ils pourraient aussi ne pas la faire s'ils pensent que le livre est si merdique que ça. Pourquoi ils font une triple page ? Enfin, ils sont très curieux. Ils ont l'air. Enfin, je trouve qu'ils ont peur pour rien, quoi. Ils feraient mieux juste d'essayer de regarder les éléments qui peuvent, eux, les aider à mieux comprendre certaines choses ou soutenir des choses qu'ils défendent. Bon, ils sont possédés par la première fortune de France, hein, les Échos. Donc moi, je me souviens en 2007, lorsque la première fortune de France avait proposé de racheter les Échos, les journalistes des Échos, qui sont d'ailleurs un peu les mêmes qu'aujourd'hui, avaient fait appel à tout ce que la France compte d'intellectuels, d'économistes, pour les soutenir. Moi, j'avais signé bien volontiers leur pétition en disant « il faut absolument pas que les Échos perdent leur indépendance, etc. » Bon, là, maintenant, ils ont l'air de moins s'en soucier, ils en parlent moins, je ne sais pas. Je pense quand même que le problème, il est plus intellectuel. C'est-à-dire que c'est pas... Je ne dis pas il n'y a pas une censure directement. Moi, je trouve quand même que quand les médias sont à ce point possédés directement par des fortunes individuelles, c'est quand même pas sain. Et je pense que dans les médias notamment, des formes de propriété mixte, où bon, il y a eu des propositions qui ont été faites, notamment par Julia Cagé, dans un livre excellent que je me permets de citer, « Sauver les médias », dans lequel elle propose de limiter... les droits de vote des plus gros actionnaires dans les médias, et je pense que c'est important, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué un monde où on a ce niveau de concentration de la propriété privée dans les médias. Après, d'un point de vue plus intellectuel, c'est vrai qu'il y a eu certaines réactions qui vraiment, je trouve, en fait, illustrent beaucoup certains des thèmes du livre, notamment sur cette espèce de peur de la boîte de Pandore, de la remise en cause de la propriété, et aussi ressemble parfois au soi-disant libéralisme en fait très élitiste qu'on retrouvait par exemple chez Tocqueville au 19e siècle et dont je me moquais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire, sur l'héritage pour tous à 120 000 euros, j'ai eu par exemple un interview incroyable avec le journal L'Opinion qui se présente comme un journal libéral soi-disant et qui m'a dit mais quand même, là, 120 000 euros là, pour tous ces enfants là, de classe populaire, classe moyenne, vous ne croyez pas que ça pose quand même un problème d'incitation au travail Et puis, d'abord, est-ce qu'ils vont savoir quoi en faire? Ils vont en faire n'importe quoi. Et c'est les mêmes personnes qui, par contre, s'il y a des gens qui reçoivent plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions, les enfants de milliardaires, là, ça leur pose absolument aucun problème. C'est parfaitement bien. Et ils vont forcément savoir en faire quelque chose de bien. Mais quand c'est les enfants de pauvres ou de classe populaire, là, ça les fait complètement paniquer. Et c'est là que, bon, vous avez quand même la notion de libéralisme qui va pas toujours dans le même sens suivant les personnes. C'est-à-dire, c'est la liberté de certains, visiblement, les intéresse plus que la liberté de la liberté. L'immense majorité de la population qui pour l'instant n'a pas accès à la propriété, se retrouve à payer toute sa vie des loyers très importants, parce que la justice éducative c'est très important, avoir un bon diplôme, un bon salaire, mais si après vous payez le tiers de votre salaire toute votre vie pour vous loger et à des loyers reçus parfois par des enfants de propriétaires ou des personnes qui ont fait une super fortune à un moment et puis qui la gardent ensuite toute leur vie, c'est quand même compliqué. Donc voilà, la liberté, moi ce qui m'intéresse c'est la liberté réelle. Et c'est vrai que ceux qui parfois brandissent l'étendard du libéralisme, c'est un libéralisme très élitiste et parfois très autoritaire, un peu comme d'ailleurs Tocqueville au 19e siècle. Bon, c'est voilà le débat. Moi, j'aime plutôt bien le débat et la controverse, donc je me plains pas. C'est vrai que parfois c'est un peu caricatural. Bon, voilà, c'est comme ça.
Alors, merci beaucoup, Thomas. Et par rapport à Julia, je voulais juste dire que nous étions très heureux mercredi dernier d'avoir à ce même endroit une conférence sur médias et démocratie à laquelle Julia Caget participait, et la session était organisée par ma collègue Sophie Hatt. Alors, on a reçu beaucoup de questions, je vais essayer de les résumer. Donc, une première portait sur la question de la décroissance, donc en lien avec les discussions sur le réchauffement climatique. Il faut juste que je l'ouvre. Donc, la question est la suivante. Dans le cadre de la crise climatique actuelle, de plus en plus de citoyens prônent la décroissance. Donc, selon vous, selon toi, Thomas, quelles seraient les conséquences de la décroissance sur la structure des inégalités et sur la répartition du capital ?
Oui, alors la question centrale, c'est la croissance de quoi ? C'est-à-dire comment on définit la croissance ? Donc moi je fais très attention dans mon livre et depuis dans d'autres écrits depuis très longtemps de parler non pas de croissance du PIB, du produit intérieur brut, mais de croissance du revenu national. Alors ça peut paraître comme ça une petite différence, mais il y a deux différences importantes. C'est que le revenu national, d'abord on prend en compte les revenus du capital partant à l'étranger ou allant à l'étranger, donc la question de la propriété de pays par d'autres, ce qui est important. Mais surtout, pour répondre à cette question, on prend en compte la consommation de capital et normalement aussi la consommation de capital naturel. Donc autrement dit, si vous sortez des hydrocarbures du sol et que après vous les utilisez pour faire fonctionner votre voiture, ça c'est censé faire beaucoup de PIB, mais en fait ça fait pas du tout de revenu national parce que vous diminuez les réserves de capital d'hydrocarbures qu'il y avait déjà dans le sol. Donc en fait c'est zéro revenu national et éventuellement beaucoup de PIB. Si en plus le fait de brûler ces hydrocarbures, et on a de bonnes raisons de le penser, favorise le réchauffement climatique et crée toute forme d'effets externes négatifs, alors cette action consistant à sortir les hydrocarbures du sol et à les brûler, non seulement ça ne fait pas du PIB positif, mais ça fait même du revenu national négatif. Donc vous voyez que l'indicateur qu'on utilise pour mesurer la soi-disant croissance change tout. Alors, cela étant dit, je pense qu'on a besoin quand même d'une notion de croissance avec un indicateur qui peut être le revenu national. Il faut le compléter avec d'autres indicateurs, comme par exemple les degrés mesurant le réchauffement climatique, donc se fixer des indicateurs en termes de cibles de degrés. Et pour le coup, je pense que si on veut avoir des cibles un peu moins catastrophiques que celles vers lesquelles on se dirige actuellement, ça pourra se faire qu'avec une très forte réduction des inégalités. C'est-à-dire, je pense que c'est impossible d'aller vers la sobriété énergétique si on n'a pas une certaine sobriété sociale, économique, financière. C'est-à-dire, tant qu'on a des trains de vie complètement fous au sommet de la distribution, on ne voit vraiment pas comment les classes moyennes, populaires, accepteraient de changer le leur et de faire des efforts sur leur mode de vie. Donc, pour moi, vraiment, réduction des inégalités et résolution du problème du réchauffement climatique vont absolument ensemble. Enfin, disons, la réduction des inégalités est une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour résoudre le problème du réchauffement climatique. Mais on aura quand même besoin d'une notion de croissance, parce que, vous voyez, si on refuse... Vous voyez, la croissance, c'est aussi le fait de pouvoir comparer des niveaux de revenus entre eux. À la fois d'ailleurs à un moment donné du temps à l'intérieur des pays et puis dans le temps. Mais si on n'a pas de façon de comparer le revenu ou le capital possédé par les uns et les autres, pour développer des normes de justice, ça va être quand même très difficile. Et on a besoin de développer des normes de justice communes pour arriver à résoudre les problèmes climatiques. Donc la doctrine consistant à dire « moi je ne veux plus entendre parler de revenus, de salaires, de patrimoine, de rien du tout, parce qu'il n'y a plus qu'une seule chose qui m'importe, c'est l'environnement », c'est un discours qui me paraît extrêmement dangereux si on veut résoudre les problèmes environnementaux. Et c'est un discours qui est inadapté. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il faut parler d'environnement, mais pour résoudre les problèmes d'environnement, il va falloir des notions de justice. Et dans un monde où il y a des inégalités entre classes sociales, des inégalités de revenus, de salaires, de capital, il va falloir en parler pour répartir les efforts. Et donc cette soi-disant radicalité de par certains discours sur la décroissance consistant à dire voilà, on ne veut plus vous arrêter de nous parler là, des revenus, des salaires, tout ça, ça n'existe plus, c'est une radicalité très bon marché qui permet effectivement de ne plus entendre parler de tout ça, mais qui ne permet absolument pas de résoudre les problèmes. Donc, voilà, ce sont des problèmes difficiles et il faut essayer d'avoir... On a besoin de tous les outils pour ça. Donc des outils nouveaux, des mesures du réchauffement, le nombre de degrés, de remontée des eaux. On ne va pas tout résoudre avec juste le revenu national qui ne sera jamais un indicateur suffisant pour bien prendre en compte ces objectifs environnementaux. Mais on en aura aussi besoin pour développer des normes de justice sur les efforts demandés aux différents groupes sociaux.
Merci. Alors nous avons aussi reçu plusieurs questions sur les taux d'imposition élevés pendant la période des 30 Glorieuses. On nous demande en particulier, est-ce que le fait que les Trente Glorieuses combinent une forte croissance et un impôt progressif avec des taux marginaux élevés n'est pas plutôt une corrélation qu'une causalité? Ça, c'est une première question qui est revenue plusieurs fois. Et une deuxième, c'est sur la perception de la taxation de l'héritage. Donc, on me dit, les travaux d'Alexis Spire semblent montrer que ce sont plutôt les classes populaires et moyennes qui sont contre une taxation de l'héritage. Et donc, on se demandait, enfin, la personne se demande ce que tu en penses.
Alors, deux questions très, très, très différentes, mais toutes les deux très importantes. Alors, sur le niveau de croissance, oui, je pense que c'est plus une corrélation qu'une causalité. C'est-à-dire, je pense que la très forte croissance de l'après-guerre, c'est plutôt, pour moi, l'explication... Bon, il y a la réduction des inégalités en général, dont l'impôt progressif a participé, mais il y a surtout l'investissement éducatif, l'investissement dans la santé, enfin, tout ce processus qui a réduit les inégalités en général a contribué à la très forte croissance de l'après-guerre. Dans le cas européen, il y a en plus un phénomène évident de rattrapage, c'est-à-dire que la croissance entre 1910 et 1950 avait été très, très faible, et donc entre 1950 et 1990, c'est en grande partie un rattrapage. Cet argument du rattrapage, celui qui est souvent évoqué, en partie avec raison, est beaucoup moins convaincant dans le cas des États-Unis. C'est-à-dire, vous avez remarqué la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure sur les taux de croissance. En fait, la croissance 1950-1990 aux États-Unis n'est pas exceptionnelle. Elle est très proche, elle est un peu supérieure à 1910-1950 et 1870-1910, mais c'est en gros 2% par an tout le temps. Donc, évoquer la croissance de 1950-90 comme un truc exceptionnel et un phénomène de rattrapage dans le cas des États-Unis me semble, pour le coup, très peu convaincant. Très peu convaincant. Les États-Unis n'étaient pas en rattrapage par rapport à eux-mêmes. Ils étaient à la frontière technologique entre 1950 et 90. Et pour finir, ils ont toujours la frontière aujourd'hui, sauf que leur taux de croissance a été divisé par deux. Donc, ce que ça montre, c'est pas que un très fort impôt progressif était en soi producteur d'une très forte croissance, mais qu'en tout cas, il ne l'empêchait pas. Je crois que c'est clairement, ça montre que les très forts niveaux d'impôt progressif n'empêchaient pas une croissance deux fois plus faible, enfin deux fois plus élevée à l'époque, parce qu'elle est devenue deux fois plus faible depuis les années 80. Et il y avait d'autres facteurs d'éducation, d'investissement dans la recherche notamment. Mais en tout cas, ce qu'on peut retirer de ça, je pense de façon très claire, c'est qu'une très forte progressivité fiscale n'empêche pas une croissance très rapide sur la base des expériences. Alors, certaines personnes, j'entends parfois des personnes qui me disent oui, mais cette expérience des États-Unis de 50, 90, finalement, ça n'a pas forcément des conclusions universelles. Et c'est vrai que ça reste une expérience limitée. En même temps, c'est tout ce qu'on a sous la main. C'est-à-dire que si on refuse comme ça de regarder, c'est quand même la principale puissance économique au XXe siècle, c'est quand même des périodes de 40 ans, tout ça. Si on refuse de regarder ça, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ça devient un peu nihiliste. C'est-à-dire que ça devient de dire, non, mais aujourd'hui, c'est différent. On n'a rien à apprendre de ces périodes-là. Les gens disent que c'était du rattrapage. Mais à nouveau, aux États-Unis, ce n'était pas un rattrapage. Il y avait pas, la croissance a été particulièrement faible les décennies d'avant. Donc, moi, je pense que voilà, si on retourne ça bien dans tous les sens, ce qu'on a de mieux comme fait quand même suggère que en tout cas, concrètement, si on revenait à ce niveau de progressivité fiscale aux États-Unis dans les décennies qui viennent, je pense certainement pas que ça abaisserait davantage la croissance par rapport à ce qu'elle a été des 30 dernières années. Et si on utilisait ces nouvelles ressources pour investir dans la formation, qui est ce que proposent des candidats comme Warren, Sanders, bon, je me permets de faire leur publicité puisque personne ne va voter ici aux élections primaires démocrates, je crois, et puis bon, j'en ferai la publicité de toute façon. Le projet, c'est pas seulement le retour de l'impôt progressif, c'est aussi le financement de l'éducation. Il y a tout le problème de la dette étudiante aux États-Unis qui est énorme, que Sanders et Warren proposent d'annuler et d'avoir un plus gros financement dans les universités publiques, parce que vous pouvez pas faire fonctionner un pays uniquement avec Harvard et Stanford hyper bien financés. Et ça fonctionne très bien, Harvard et Stanford, mais vous pouvez pas, ça suffit pas. Vous pouvez pas avoir juste une petite élite en haut qui a un super investissement éducatif et laisser complètement tomber tout le système public universitaire comme c'est le cas aux États-Unis. Et donc je pense que ça, pour le coup, ça peut faire remonter la croissance de façon beaucoup plus certaine, et ça peut être financé par l'impôt progressif. Je réponds très vite sur l'impôt sur les successions. L'impôt sur les successions, effectivement, dans tous les pays, est moins populaire que l'impôt sur la fortune. Par contre, l'impôt annuel sur la fortune, dans tous les pays, est plébiscité. En France, où il y a une très grande majorité qui souhaite le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Aux États-Unis, où les propositions de création d'un impôt sur la fortune par Warren et Sanders, je rappelle que là, Warren et Sanders, ils proposent maintenant des taux qui sont entre 6 et 8 % des taux annuels d'imposition sur les plus grandes fortunes. Juste pour mémoire, l'impôt sur la fortune en France n'a jamais dépassé 2-2,5%. Hein. Donc là, on est sur des taux appliqués aux plus grandes fortunes qui sont 2-3 fois plus élevés que ce qui a été proposé en France. Je ne dis pas que ça va se faire, forcément, mais c'est quand même intéressant de voir ça dans le débat. Moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, d'avoir débattu avec Warren à Boston, où... Moi, dans mon bouquin de 2014, je disais qu'il faut un taux entre 5 et 10% sur les plus hautes fortunes. Et Warren disait, oh là là, quand même, bon, c'est impôt sur la fortune, ça me paraît un peu dangereux, tout ça. Donc, il y a une évolution du débat aux États-Unis. Je ne dis pas du tout que c'est suite à moi. Je pense que c'est une évolution qui, de toute façon, était en route, allait avoir lieu et est en place en partie depuis la crise de 2008, où il y a une remise en cause graduelle d'un espèce d'excès qu'il y a eu dans les années 80-90. Mais ça va quand même assez loin, et ça pour le coup c'est beaucoup plus populaire que l'impôt sur les successions. Et d'ailleurs moi dans les propositions que je fais, je mise beaucoup plus sur l'impôt annuel sur la propriété que sur l'impôt sur les successions. Je pense qu'il faut un peu des deux, mais je pense qu'il y a une raison de fond. Et par exemple, les gens, c'est vrai, ont très peur que, par exemple, au niveau de l'impôt sur les successions, qui vont devoir vendre par exemple l'héritage pour payer l'impôt sur les successions. Et c'est pour ça que les gens vont préférer. Alors, les gens aussi surestiment combien va représenter l'impôt sur les successions. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre aussi pourquoi la peur de devoir payer 20% ou 30% d'un coup d'impôt sur les successions, les gens préfèrent payer, par exemple, en taxe foncière 1% par an pendant 30 ans, plutôt que payer 30% d'un coup au niveau de l'impôt sur les successions. Alors, on peut dire que c'est de l'aveuglement fiscal, c'est en fait, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils vont payer en taxe foncière pendant 30 ans. Moi, je pense que c'est plus rationnel que ça. D'ailleurs, on a un modèle avec Emmanuel Saez qui essaye de rationaliser tout ça. C'est-à-dire que si vous avez un problème de contrainte de crédit, comme on dit en économie, mais c'est juste que voilà, vous n'allez pas emprunter l'équivalent de 30% de votre patrimoine pour payer votre impôt sur les successions. Donc, vous allez être obligé de vendre, de fait, l'héritage ou la société, l'entreprise familiale ou la maison de campagne ou je ne sais pas quoi. Vous êtes obligé de la vendre pour payer le truc, alors que si vous pouvez payer 1% par an, parce que l'impôt sur le patrimoine, il ne faut pas oublier quand même, c'est peut-être un impôt sur le patrimoine, mais il est payé à partir des revenus. Et donc, il faut pouvoir sortir l'argent pour payer l'impôt par rapport aux revenus. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à préférer l'impôt annuel sur la propriété. Alors, pas comme la taxe foncière qui n'est pas progressif. Hein. Le problème de la taxe foncière aujourd'hui, qui est le premier impôt annuel sur le patrimoine en France, c'est 40 milliards d'euros la taxe foncière. L'impôt sur la fortune, c'était 5 milliards d'euros là, avant sa suppression. Donc tout le monde est obsédé pour l'impôt sur la fortune parce que ça concerne les plus riches. Mais la taxe foncière, tout le monde s'en fout, mais c'est payé par tout le monde, enfin tous ceux qui possèdent un petit bien immobilier, et de façon extraordinairement injuste pour le coup, puisque si vous avez un appartement ou une maison qui vaut 300 000 euros, vous allez payer la même taxe foncière si vous êtes endetté jusqu'au cou avec 290 000 euros d'emprunt que si vous n'avez aucun emprunt et que vous avez 3 millions d'euros de patrimoine financier. Avant, l'ISF compensait un peu. Maintenant, il n'y a plus d'ISF, donc là, ça ne compense plus du tout. Donc, si vous avez un patrimoine de 2 millions d'euros ou 3 millions d'euros que vous investissez pour construire une maison ou un immeuble, vous créez de l'emploi en France, vous payez taxe foncière, impôt sur la fortune immobilière. Vous allez placer ces 2 millions d'euros à l'autre bout du monde dans un portefeuille financier, créer zéro emploi en France, vous payez ni taxe foncière ni impôt sur la fortune immobilière. Tout ça au nom de l'investissement et de la création d'emplois en France. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à tenir des raisonnements qui sont parfois étonnants. Enfin, je veux dire, c'est pas facile hein, quand même à suivre. Hein. Faut bien s'accrocher. Hein. Et donc là, on crée là, de l'incompréhension. Donc je pense que voilà, en particulier, tous ceux qui disent on va supprimer l'ISF et on va compenser ensuite par de l'impôt sur les successions à la sortie, ce qui est un discours qui a été tenu un moment par l'actuel pouvoir en place, c'est vraiment d'une très grande hypocrisie. Hein, parce que tout le monde sait très bien, d'abord, que c'est impossible de récupérer le même argent sur le même groupe de la population sur l'impôt sur les successions. Il faudrait taper sur des groupes beaucoup, beaucoup plus larges. C'est-à-dire, en gros, vous diminuez l'ISF sur ceux qui ont 2, 3, 4 millions d'euros, puis après, vous allez récupérer de l'impôt sur les successions qui est sur ceux qui transmettent 100 000, 200 000, 300 000 euros pour que les masses collent, c'est ça. Et vous savez très bien que vous n'allez pas le faire. Et donc, vous commencez par dire ça, et puis à la fin, ah ben mince, en fait, c'est très impopulaire, l'impôt sur les successions, ben, on ne va pas pouvoir le faire, c'est ballot, donc on en reste à notre suppression de l'impôt sur la fortune. C'est un discours d'une très, très grande hypocrisie. Je pense qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles l'impôt annuel sur le patrimoine est mieux accepté que l'impôt successoral. Il faut un peu des deux, mais il y aura... Dans tous les pays, d'ailleurs, il y a les recettes fiscales venant de l'impôt annuel sur la propriété, taxe foncière, impôt sur la fortune, sont beaucoup plus élevées et ont toujours été beaucoup plus élevées pour de bonnes raisons que celles de l'impôt successoral.
Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Thomas. Compte tenu de l'heure avancée, il nous faut nous arrêter. Par contre, Thomas reste pour une séance de dédicace. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser à cette occasion. Donc je voudrais à nouveau remercier Thomas et puis remercier aussi Jonathan Gopi-Lebray pour l'organisation.